Alors, on va commencer dans notre leçon 1. Ça va être une introduction à la Confession de foi baptiste de Londres de 1689. Et on va regarder trois points aujourd'hui. Son historique, autrement dit, ça vient d'où, puis pour quelles raisons ça a été fait, dans quel cadre et tout ça. On va regarder le deuxième point, sa légitimité. Parce qu'il y a des gens qui mettent en doute la légitimité d'avoir une confession de foi. Ils vont emmener l'argument, bien, on a la Bible. Oui, c'est vrai, on a la Bible. Mais quand il y a 107 pasteurs qui se réunissent, puis qui prennent doctrine par doctrine, qui prennent le temps de développer qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que c'est la Trinité, qu'est-ce que c'est le salut, qu'est-ce que c'est la... etc., avec tout ce qui est marqué dans le 1689, et qui vont chercher des points dans les Saintes Écritures pour affirmer que tout cela est vrai. Moi, je suis parfaitement d'accord que c'est légitime d'avoir une confession de foi, et on va regarder un petit peu ce deuxième point-là aujourd'hui. Pourquoi on croit que c'est légitime d'avoir une confession de foi? Ça n'exclut pas notre adhésion pleine et entière aux Saintes Écritures. Au contraire, on les met toujours, les Saintes Écritures, en premier, et la confession de foi, c'est comme une vision, une compréhension qui a été faite par 107 pasteurs à Londres en 1677. La preuve que c'est bon, c'est que ça dure. Quand une chose est écrite, puis que ça dure 200 ans, il faut croire qu'il y a quelque chose de solide là-dedans, parce qu'il y a encore énormément d'églises au Canada, aux États-Unis, à travers le monde, qui adoptent la même position. Ça doit dire quelque chose, me semble. Et donc, la légitimité. Et le troisième point qu'on va regarder aujourd'hui rapidement, c'est les usages bénéfiques. Il y a des usages bénéfiques à avoir une confession de foi. On va les regarder, les principales raisons. Qu'est-ce qu'on retire de l'adhésion ou de l'adoption par des églises locales d'une confession de foi? On va regarder les principaux points. Alors, la confession de foi baptiste de Londres, c'est un document qui est important. Il résume succinctement. Autrement dit, ce n'est pas la Bible, mais ça prend toutes les doctrines principales des Écritures et ça les décrit et ça les précise et ça donne des preuves scripturaires de ce qui est écrit et vraiment dans les Écritures. Alors, ça décrit succinctement, mais aussi précisément. Parce que si vous regardez votre confession de foi, elle est écrite en petits caractères, 80 pages. Alors, c'est précis. Toutes les choses sont précises. C'est précis sur la Trinité, c'est précis sur d'autres choses, c'est précis sur le salut, c'est précis sur la personne de Christ, et etc. Alors, c'est pour ça que c'est important de bien la connaître, parce que les doctrines ont été précisées, et on sait ce qu'on croit, et c'est important de demeurer fidèle à cela, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'églises qui, dans le passé, ont été fidèles à ce document-là, qui le sont encore aujourd'hui. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que la confession de foi baptiste de 1689, c'est les croyances des baptistes calvinistes depuis 1677. Vous allez me dire pourquoi vous l'appelez 1689 si elle existe depuis 1677. Quand on connaît l'histoire de l'Angleterre est fortement attachée au développement des doctrines. Ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des églises, la Westminster Confession of Faith de 1646, c'était les presbytériens qui avaient écrit cette confession de foi-là, puis vous demanderez à n'importe quel presbytérien que vous connaissez, à moins qu'il ait renié ses origines, mais c'est la confession de foi la plus complète qui a jamais été écrite. Et eux aussi, c'est un grand groupe de pasteurs. Pourquoi on a pris la confession de foi 1689 et on a gardé qu'est-ce qui nous semblait scripturaire à l'intérieur de cela et pourquoi on a, nous, les baptistes, enlevé certains points ou modifié certains points? Par exemple, c'est qu'est-ce qui constitue une église? Pour les presbytériens, eux, ils croient que le baptême, on peut baptiser des bébés. Un peu comme dans l'Église catholique. Nous, on ne croit pas ça. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé dans son ensemble cette grande confession de foi, qui est très précise aussi, mais ils ont tout simplement modifié les aspects ou les articles sur lesquels on n'était pas d'accord. Deux ou trois points. Et après ça, c'est 107 pasteurs-là se sont réunis à Londres et se sont entendus, ils l'ont défini, ils l'ont écrit. Et depuis ce temps-là, elle a une longue histoire. Alors, elle a été utilisée, bien sûr, au cours des siècles, par un très grand nombre d'églises locales, dans le monde anglo-saxon en particulier, parce que ça le dit, London, donc ça vient de Londres en Angleterre. Donc, ça a été utilisé dans beaucoup d'églises, particulièrement dans le monde anglo-saxon, mais aussi dans différentes langues à travers le monde. Aujourd'hui, la confession de foi baptiste de 1689, elle a été traduite en portugais, en espagnol, et elle est répandue. Je connais personnellement des chrétiens qui habitent au Brésil, qui sont venus à Rouyn-Noranda, et que les églises qui vont là-bas au Brésil, eux aussi ont la 1689. Alors, ce n'est pas une affaire, là, c'est une grosse affaire, comme on peut dire. Alors, elle est le fruit des réflexions et des délibérations des ministres et délégués de plus de 107 églises qui rejetaient ce qu'on appelle l'arminianisme. Alors, ça le dit, c'est une confession de foi calviniste, on n'a pas honte de ça. C'est la position officielle de l'Église ici. Alors, plusieurs pasteurs dans l'association ont considéré qu'il était très important d'expliquer ces 32 chapitres. Quand vous l'apprenez, la confession de foi, vous regardez, il y a 32 chapitres avec des paragraphes. Alors, chaque chapitre va dire, par exemple, qu'est-ce que c'est l'Église, qu'est-ce que c'est la Providence, qu'est-ce que c'est le décret de Dieu, qu'est-ce que c'est le salut, etc., etc. Mais à l'intérieur d'un paragraphe, c'est-à-dire à l'intérieur d'une division, d'un chapitre, il y a des paragraphes, et c'est pour ça que c'est important de l'étudier. Parce que je sais par expérience que les gens qui se font donner une confession de foi, ils la lisent, puis bien souvent, ils vont tomber sur des difficultés, ils ne comprendront pas exactement ce que le texte veut dire, ils ne se donneront pas nécessairement la peine d'essayer d'aller plus en profondeur, puis de comprendre le texte. Le but d'étudier une confession de foi, c'est justement que pour nous, ça ne devient pas que c'est un document qu'on met sur la tablette, ça devient un document vivant, ça devient un document qu'on utilise pour préciser nos croyances. Alors, c'est important de le faire, comme je vous ai mentionné tantôt, les autres églises réformées baptistes du Québec le font tous. Non seulement on le fait au Québec, mais c'est la même chose aux États-Unis. Toutes les églises qui ont adopté cette confession de foi, non seulement donnent des copies aux gens, mais ils expliquent aux gens. Et ça prend du temps à faire ça. On ne peut pas faire ça dans 15 minutes, ni dans une demi-heure. C'est des choses qui se font graduellement, chapitre par chapitre, paragraphe par paragraphe. Et c'est ce qu'on va faire au cours du temps que ça prendra. Si ça prend 2 ans, ça prendra 2 ans, c'est pas grave. On va alterner, on va faire Genèse, la semaine suivante, on va faire... Et on va avancer là-dedans. Et je vous garantis que ça va fortifier votre foi, que ça va préciser votre foi. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est important de le faire. Alors, pour préparer ce que j'ai préparé aujourd'hui et ce que je vais préparer pour les mois à venir, j'ai utilisé deux outils principaux. Un, c'est le livre du pasteur Samuel Waldron, qui s'appelle, ben, est en anglais comme de raison, 1689 Baptist Confession of Faith, A Modern Exposition. Autrement dit, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris le 1689, chapitre par chapitre, paragraphe par paragraphe, et il a expliqué en détail qu'est-ce que ça veut dire. C'est un livre d'à peu près 400 pages, très intéressant. Et pour donner un peu une idée de qui est ce gars-là, Samuel Waldron, c'est un directeur d'une école biblique aux États-Unis qui s'appelle Covenant Baptist Theological Seminary, où actuellement... Tous les pasteurs qu'on veut faire former pour être dans le ministère, on les envoie tous à Covenant Baptist Theological Seminary. Alors, le gars-là, il est sur la fin de carrière, c'est un intellectuel, c'est une personne très fortement, fort dans la foi, et est capable d'expliquer les choses avec une... Son livre est un chef-d'œuvre. Mais depuis le temps, il y a eu un deuxième pasteur aux États-Unis qui s'appelle Gary Marble, de Grace Covenant Church de Gilbert, en Arizona. Lui, il vient de sortir un site web. Il s'appelle 1689commentary.org. Lui, il veut faire exactement la même chose que M. Waldron, mais avec une autre perspective, une autre expérience. Et il a déjà commencé, je pense que sur 32 chapitres, si je ne me trompe pas, il est rendu au 22. Mais avant que je sois rendu au 22, lui, il va avoir fini. Alors, c'est vraiment mes deux principaux outils que je veux utiliser. Je vais prendre le meilleur des deux et pour vous présenter la position qu'on défend ici dans cette église, qui est la position officielle de l'église. Alors, je vous donne les deux outils. Si jamais vous voulez avoir les détails de tout ça, où vous procurez le livre, où aller pour trouver ces informations-là, je vous donnerai ça avec un grand plaisir. Alors, on va commencer par le premier point, la confession de foi baptiste de Londres de 1689, son historique. Alors ici, je vais vous donner la préface de la confession de foi baptiste de 1689 qui a été publiée par notre association, le petit livret rose qu'on a, là, que je vous ai donné. Là. Ça a été publié par l'Association d'Église réformée baptiste du Québec et ça a été traduit officiellement par l'association, notre association AERBQ. Alors, dans la préface, ça dit un petit peu l'historique de tout cela. Bien sûr, quelqu'un qui s'intéresse à ça d'une façon détaillée, il peut trouver beaucoup d'autres informations, mais dans le fond, c'est juste de comprendre l'origine de tout ça, puis pourquoi ça a été fait. Alors, entre 1644 et 1648, un groupe de théologiens puritains d'Angleterre et d'Écosse s'entendent sur la rédaction de la confession de foi dite de Westminster. Très important dans le milieu. Tous les presbytériens du monde connaissent la confession de foi de Westminster parce que c'est leur confession de foi et les presbytériens en ont énormément dans le monde. Là. Alors, eux, c'est leur confession de foi. Alors, eux avaient fait ça. Alors, il s'agit, et tout le monde s'entend là-dessus, là. Il n'y a pas personne qui met ça en doute, là, que c'est un document d'une très grande qualité d'origine, d'orientation presbytérienne. Ce qui arrivait en Angleterre dans ces années-là, c'est que le pape et le catholicisme cherchaient à reprendre le contrôle de l'Angleterre et, quelque part, ça créait des conflits religieux dans l'Angleterre. Alors, quelque part, c'est pour ça que les presbytériens ont dit « Voici, nous, on se réunit, on définit qu'est-ce qu'on croit ». Et là, ça créait un petit peu des conflits avec les baptistes, parce que nous, il y avait certaines choses sur lesquelles on ne s'entendait pas avec eux. Le baptême des bébés, entre autres. Et on va voir les points sur lesquels on diffère d'entre eux. On va les voir à mesure et on regardera ça. Alors, il y avait de la persécution qui se faisait. Alors, les presbytériens, quand on regarde l'histoire de l'Église, des fois, il y a des choses qui sont tristes un peu. De voir qu'entre groupes de dénominations, parfois, il y a des persécutions qui, quand on regarde ça avec nos yeux modernes, on se dit, il me semble que ça n'a pas de raison d'être. Mais il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Les gens croyaient que si tu disais que le baptême des bébés n'était pas biblique, pour eux, c'était comme une grosse affaire. Alors, il y avait de la bisbille en Angleterre et, à quelque part, les baptistes ont senti le besoin de se réunir et de dire, nous, là, la 1646, la Westminster, là, on croit presque à la même chose que vous. Et ils ont défini la 1689, là, si vous regardez ça, là, puis vous la comparez avec la 1646, là, c'est beaucoup de points sont presque mot pour mot. Mais sur les points sur lesquels on n'était pas d'accord, ça a été reformulé pour tenir compte du fait que nous, on ne croit pas que les bébés devraient être baptisés, etc. Les autres points, on les regardera à mesure. Alors, il y avait un groupe de Particular Baptists. Quand vous regardez ça, Particular Baptist, ça veut dire quoi? Les Baptistes particuliers et les General Baptists. C'est deux grands groupes en Angleterre. General Baptist, ça voulait dire ceux qui croient avec une doctrine arminienne. Et Particular, c'est ceux qui croyaient avec une perspective de foi sur le salut calviniste. Alors, la 1689 a été bâtie par les calvinistes d'Angleterre, qui étaient des baptistes Particular. Alors, ils ont rédigé et ils ont publié en 1677 une confession de foi dite baptiste. Alors, ils se sont inspirés de la Westminster là où leur conviction s'harmonise avec celle de la Westminster. Alors, après l'accession de Guillaume et de Marie au trône d'Angleterre et la promulgation de l'acte de tolérance. Parce qu'en Angleterre, là, quand il y avait des conflits religieux, ça chauffait, comme on dit. Et à quelque part, les gens ne pouvaient pas nécessairement dire quelque chose qui était un petit peu contraire à ce qui se passait, disons, parce qu'ils étaient majoritaires, les presbytériens. Alors, si tu disais quelque chose qui était un petit peu à l'opposition, ça pouvait créer des problèmes sérieux. Mais à un moment donné, le roi, pour avoir la paix religieuse dans le pays, il avait fait ce qu'il appelait l'acte de tolérance du 24 mai 1689. Autrement dit, le fait que le gouvernement dise là, l'acte de tolérance, ça voulait dire que vous devriez être capable de vous entendre avec les presbytériens ou les baptistes. Fait que là, ça donnait une porte ouverte et une occasion pour les baptistes de 1689 de promouvoir leurs croyances sans nécessairement risquer d'avoir des problèmes avec les autorités. Alors, c'est un document qui a été adopté en 1677, mais après ça, en 1689, quand l'acte de tolérance a été adopté en Angleterre, ça a été la promulgation. Ils ont commencé à le rendre public et à le développer. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu plusieurs éditions, qu'on appelle les éditions successives, du même document, mais c'est pour vous montrer 1693, 1699, 1719, 1720, 1791 et 1809. Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui, traduit dans plusieurs langues. Maintenant, je vais vous donner l'opinion d'une personne très connue, d'un pasteur très connu à travers la terre entière, et c'est Charles Spurgeon. En 1855, Charles Spurgeon, il était dans sa deuxième année de son ministère à New Park Street Chapel. Alors, Charles Spurgeon l'a réimprimé avec des commentaires qu'il adresse, selon ses propres mots, à toute la maisonnée de la foi qui se réjouit des grandes doctrines de la grâce souveraine. Il dit « Il m'a paru bon de réimprimer à un prix abordable cette excellente liste de doctrines auxquels ont souscrit les ministres baptistes en 1689. Il dit « Nous avons besoin d'une bannière à cause de la vérité, puisse ce petit livret aider la cause du glorieux évangile en rendant témoignage à ses doctrines cardinales. » Autrement dit, les plus importantes. Puis là, il finit en disant « Puisse le Seigneur redonner à Sion un langage pur et puisse ses sentinelles garder l'œil ouvert. » La deuxième partie du 19e siècle et les premières décennies du 20e ont vu un déclin d'intérêt pour cette confession de foi-là. Et là, si on veut rentrer dans les détails, il faut aller dans l'histoire. Mais je ferais vous dire que ça a décliné dans la deuxième moitié du 19e et première moitié du 20e. Cependant, il a plu à notre Dieu de souffler souverainement un renouveau du calvinisme biblique parmi les baptistes, d'où le retour en force de cette confession de foi historique, comme en témoignent les rééditions de 1958, 1963, 1966, 1970, 1972, 1974, et la nôtre qui a été, ils ont pris le texte anglais, ils se sont mis un groupe, ils l'ont traduit, ils l'ont fait approuver, et ce qu'on a dans les mains aujourd'hui, ça vient de là. Alors, pour vous donner une petite idée historique, là, ça couvre à peu près le côté historique de l'affaire. Bien sûr, on peut aller beaucoup plus en profondeur que ça. Le deuxième point qu'on va regarder aujourd'hui, c'est que la confession de foi baptiste de Londres de 1689, est-ce que c'est légitime pour une Église d'adopter une confession de foi? Si vous avez déjà un petit peu étudié l'histoire de l'Église, vous savez qu'au début, il y a eu beaucoup de contestations sur toutes sortes de doctrines. On a nié la divinité de Jésus-Christ. On a nié toutes sortes d'affaires. Et à chaque fois qu'il y avait un problème théologique, il y avait une confession, il y avait des réunions d'évêques ou de pasteurs qui se réunissaient de manière à définir ce que Satan et ses ministres cherchaient à introduire dans l'Église de Christ. Les confessions de foi, c'est pas nouveau, là. Ça fait des siècles que ça existe, et ça a existé depuis le début de l'Église. Alors, la confession de foi baptiste de Londres, est légitime parce que la Bible elle-même nous dit dans 1 Timothée chapitre 3, versets 15 et 16, « Mais encore que je tarde, je t'écris ces choses afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, savoir que Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru au monde et élevé dans la gloire. » Alors, il y a des textes dans les Écritures, Paul est en train de parler à Timothée, et il lui dit que c'est important de garder le dépôt qui lui a été confié. Alors, la Bible déclare, selon le texte qu'on vient de lire, que l'Église universelle et les églises locales ont deux choses qui les caractérisent. Ils sont la colonne, c'est qui supporte un bâtiment, et l'appui, donc c'est comme la fondation ou la structure ou son solage, et de la vérité qui est tout simplement le glorieux évangile de Jésus-Christ. Donc, si l'Église est la colonne et le solage de la vérité, c'est important pour l'Église de définir ce qu'elle croit pour que ça puisse se transmettre d'une génération à l'autre. Une chose que j'ai remarqué quand on est allé à Saint-Jérôme hier, on parlait de différents problèmes contemporains et qu'on avait besoin de répondre à ces problèmes-là parce qu'ils n'existaient pas à l'époque. C'est moderne, c'est des problèmes qui sont nouveaux. Alors, quelque part, il y a des gens qui se réunissent et qui définissent. C'est pour ça qu'on a besoin d'être précis quand on définit une confession de foi. Alors, c'est donc la responsabilité de l'Église de conserver pure cette précieuse vérité et de la préserver contre les erreurs et les attaques de l'ennemi. N'oublions pas que la Bible nous avertit qu'il y a des ministres qui vont s'introduire dans les églises dans le but d'emmener des fausses doctrines. Et à quelque part, je pense qu'un des meilleurs moyens de se conserver de cela, c'est d'avoir une confession de foi forte qui définit précisément ce qu'on croit. Alors, tout au long de son histoire, l'Église s'est donné des confessions de foi qui synthétisaient l'enseignement biblique sur des sujets précis. On prend des exemples. Et bien sûr, si on rentrerait dans le domaine des confessions de foi, on pourrait étudier ça pendant des années, là. Alors, il y a une des premières, ça a été le symbole des apôtres. Quand on allait à l'école, ils nous faisaient apprendre ça par cœur. Après ça, il y a eu le symbole de Nicée. Après ça, il y a eu le symbole d'Athanase. Après ça, il y a eu la confession de foi de 1646 des presbytériens, ce qu'on a appelé les canons de Dordrecht. C'est encore d'autres conflits qu'il y avait dans un autre pays, la Hollande, où les pasteurs ont eu besoin de se rencontrer et de définir qu'il y avait des erreurs qui étaient en train de s'introduire dans les églises et qu'ils voulaient les éliminer. Tout au long de l'histoire, si vous étudiez l'histoire de l'Église, vous allez voir que c'était un moyen que l'Église utilisait, les confessions de foi, pour se protéger des erreurs qui étaient amenées par Satan et ses serviteurs. Alors, les confessions de foi, bien entendu, reconnaissent, toutes les confessions de foi, reconnaissent qu'elles sont subordonnées aux Saintes Écritures. Ce qu'on veut dire par ça, c'est que la confession de foi, c'est pas la Bible. La confession de foi, c'est comme un cliché, c'est comme une photo qu'on a pris de ce que les gens croyaient à une époque précise sur des sujets précis. Alors, quelque part, on reconnaît tous, peu importe, si vous prenez, vous allez voir les presbytériens, puis vous leur dites, est-ce que la confession de foi est subordonnée à la Bible ou l'inverse? Autrement dit, on n'est pas en train de dire qu'une confession de foi, c'est la Bible. La Bible demeurera toujours sola scriptura. C'est là-dessus qu'on se base. Alors, c'est important de savoir que les confessions de foi reconnaissent qu'elles sont subordonnées, donc sous la Bible, non pas au-dessus. C'est important de dire ça. Alors, il y a eu plusieurs objections au cours de l'histoire et qui continuent de se manifester encore de nos jours concernant l'utilisation des confessions de foi. Une des premières objections, c'est que les gens disent, en faisant ça, vous minez l'autorité des Écritures, vous la sapez, vous l'ébranlez. Alors, bien entendu, s'il y a des gens qui nous disent ça, nous, il faut être capable de répondre si c'est vrai ce qu'ils disent ou si c'est faux. Alors, on entend souvent, de nos jours, l'affirmation « pas de confession de foi, mais seulement la Bible ». Au premier abord, cette déclaration semble pieuse. Elle rappelle que c'est à la Bible seule de réguler ce que nous devons croire et ce que nous devons pratiquer. Cependant, il est naïf de croire que l'Église peut assumer sa responsabilité d'être la colonne et l'appui de la vérité seulement en affirmant qu'elle croit à la Bible. Les témoins de Jéhovah disent qu'ils croient à la Bible. Les Mormons disent qu'ils croient à la Bible. Et plein de choses comme ça. Juste dire qu'on croit à la Bible, c'est pas suffisant parce que vous pouvez laisser rentrer une multitude d'erreurs si vous ne précisez pas ce que vous croyez en détail. Alors, la plupart des hérétiques affirmeraient aujourd'hui la même chose. Prenons l'exemple des témoins de Jéhovah qui disent trouver leur autorité dans la Bible et qui nient la divinité de Jésus-Christ. Et on pourrait ajouter la plupart des dénominations qui disent croire en Jésus-Christ, qui disent croire en la Bible, mais qui, à quelque part, sur des sujets précis, comme la divinité de Jésus-Christ ou d'autres, rejettent complètement cela. Alors, c'est pour ça que c'est important de pouvoir préciser. Alors, une simple confession de foi de notre loyauté à la Bible n'est pas suffisante. Tous ceux qui professent pas de confession, mais seulement la foi, ont une confession de foi, même si elle n'est pas écrite. S'il y a des gens qui disent ça, là, nous, on n'a pas de confession de foi, mais c'est juste la Bible. Que tu le veuilles pas, ta pensée, comme Église, elle va se préciser à quelque part. Pourquoi tu ne baptises pas les bébés? Disons que tu demandes ça à quelqu'un qui dit, « Oh, juste la Bible! » Bien, les presbytériens, ils ont juste la Bible aussi. Puis nous, on a juste la Bible aussi. Comment ça se fait qu'on a des choses différentes? À quelque part, on ne peut pas dire, « Vous avez toutes les deux raisons. » Ça, il faut s'enlever ça de la tête qu'on a toutes les deux raisons. On ne peut pas avoir toutes les deux raisons. Il y en a un des deux qui est dans l'erreur. La Bible ne peut pas enseigner deux choses, une contraire à l'autre. Alors, toutes les églises, même si une église a juste une page pour résumer sa confession de foi, je vais vous dire une chose, il y a beaucoup de choses qui ont pris des positions sans même le savoir. Parce que ce n'est pas à cause que ce n'est pas écrit que la position n'a pas été adoptée non plus par l'Église. Alors, tout groupe de croyants possède des positions sur les enseignements bibliques, qu'ils soient écrits ou non. Mais moi, je trouve qu'il est beaucoup plus prudent de les écrire et de les développer et de les préciser. Deuxième objection. La deuxième objection serait la suivante. Elle est inconsistante avec la liberté de conscience devant Dieu. On se doit de se rappeler qu'on vit à l'époque qu'on appelle postmoderniste, qui est caractérisée par deux choses, le relativisme doctrinal et le flou théologique. Le relativisme doctrinal, souvent j'ai vu ça, on va étudier un sujet, on va dire « five views on baptism ». Autrement dit, on va regarder les positions, il y a cinq positions sur le baptême, et en ayant la promotion de pareils livres, ce que vous êtes en train de dire aux gens dans l'Assemblée, c'est qu'il y a cinq positions, prenez celle qui vous fait votre affaire. Ça ne marche pas de même. S'il y a cinq positions, ça veut dire qu'il y en a quatre qui sont fausses. Et à quelque part, c'est à l'Église, comme colonne et appui de la vérité, à déterminer et à enseigner à son peuple qu'est-ce qu'elle croit être la vérité. Ça ne veut pas dire que tu es à l'abri de toute erreur, mais ça veut dire que c'est ça qu'on croit en ce moment et qu'on croit qu'on est capable de démontrer pourquoi on croit cela. Alors, on affirme, nous, au contraire, que l'Église a un urgent besoin de redécouvrir les documents qui, tels des phares dans la tempête, l'ont éclairé tout au long de son histoire. Le célèbre pasteur américain du 19e siècle qui s'appelait B.H. Carroll présente ici sa pensée sur la légitimité et l'utilité d'une solide et détaillée confession de foi. Je vais vous la lire en anglais, elle est courte, puis je vous la traduirai après. « A church with a little creed is a church with a little life. The more divine doctrines a church can agree on, The greater its power and the wider its usefulness. Traduit par moi, là, je ne sais pas si j'ai bien traduit, j'espère que oui. Une église avec une petite confession de foi est une église avec une petite vie. Plus une église réussit à se mettre d'accord sur un grand nombre de doctrines divines, plus sera grande sa puissance et plus sera étendue son utilité. Alors ça, c'est les informations, si vous voulez suivre, j'ai pris ça, là. J'ai toutes les informations, les titres des livres, les pages, tout ça, ça vous intéresse. Alors, des doctrines bien définies ne créent pas, excusez, des enseignements hérétiques. Au contraire, elles les exposent et les corrigent. Alors, les confessions de foi sont donc un moyen utilisé par l'Église ou les Églises locales à travers son histoire pour se décharger de sa responsabilité d'être la colonne et l'appui de la vérité. Autrement dit, Dieu nous a confié un trésor, nous a confié des vérités, et il a donné à l'Église la responsabilité de le conserver pur tout au long de son histoire. Donc, nous, comme Église locale, Dieu nous donne la responsabilité de conserver pur la doctrine, et le moyen qui est utilisé actuellement, c'est la 1689. Personne ne peut prétendre toute la connaître, puis toute la comprendre à 100%, mais c'est la raison pour laquelle on se donne la peine, à un moment donné, d'étudier ça point par point et d'y aller lentement. On n'est pas pressé. Il suffit d'établir ce qu'on croit pour que si jamais quelqu'un nous dit telle affaire, moi je ne crois pas que Jésus est Dieu. Oh! On n'a pas de misère à trouver où aller chercher l'information pour dire que tu es dans l'erreur. On s'en va dans la confession de foi. Tous les renseignements sont là et toute la manière qu'on doit se défendre cette doctrine-là sont là. C'est pour ça que c'est important de l'avoir. Troisième point, la confession de foi baptiste de Londres de 1689, c'est usage bénéfique. Autrement dit, après, quand on l'adopte, puis qu'on l'utilise, puis qu'on la connaît, puis qu'on l'étudie, ça va nous donner quoi comme groupe, nous, de croire ces choses-là? Bien, la première, c'est tout simplement un moyen utile pour l'affirmation publique et la défense de la foi. Titre 1, verset 3. « Mes bien-aimés, comme je m'étudie entièrement à vous écrire du salut qui nous est commun, il m'a été nécessaire de vous écrire pour vous exhorter à soutenir le combat pour la foi qui a été donné une fois aux saints. » Dieu nous a donné un trésor de vérité et c'est notre responsabilité de soutenir le combat parce que ça nous dit qu'il va y avoir un combat. Les forces de l'ennemi vont nous attaquer pour essayer de défaire chacune des doctrines une après l'autre. Mais si on n'a pas un document pour nous aider à la défendre, on va avoir du trouble. Parce que là, ça va être les idées de tout et chacun, tandis que là, ça a été réfléchi par un grand groupe de personnes. 2 Timothée, chapitre 1, verset 13. « Retiens le vrai patron des saintes doctrines que tu as entendues de moi, dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Garder le bon dépôt, ça veut dire que Dieu nous a confié le dépôt des grandes vérités concernant à peu près toutes les doctrines qui sont dans les Écritures. Et c'est un dépôt, c'est comme s'il nous l'avait confié. C'est à nous de s'organiser pour le garder. Philippiens, chapitre 1, verset 27. Seulement, conduisez-vous dignement, comme il est séant dans l'Évangile de Jésus-Christ, afin que, soit que je vienne, ou soit que je vous voie, soit que je sois absent, j'entende quant à votre état, que vous persistez en un même esprit, combattant ensemble d'un même courage par la foi de l'Évangile, et n'étant en rien épouvanté par les adversaires. Car on a une bonne confession de foi, on n'est pas épouvanté, on n'a pas peur. Parce qu'on sait que si quelqu'un vient nous enseigner un faux enseignement, on va être capable, avec la confession de foi, de démontrer avec une grande facilité. On ne retient pas toutes ces choses-là par cœur. Si on a une confession de foi, puis elle est écrite, puis s'il y a quelqu'un qui arrive ici, puis qui dit, « Ben moi, je voudrais vous convaincre que Jésus n'est pas Dieu. » Oh! Lumière rouge. À quelque part, tu as un document qui est capable de définir, puis d'aller chercher les versets pour lui démontrer qu'il est dans l'erreur. Alors, une formulation confessionnelle fait partie de la tâche de l'enseignement public de l'Église. Elle sert à définir les croyances de notre assemblée, et c'est très distinctif pour ceux de l'extérieur. Maintenant, si ça sert à ceux de l'extérieur, ça devrait servir aussi à ceux de l'intérieur. Elle sert également pour ceux de l'intérieur, autrement dit, les membres de l'Assemblée. Et ça nous sert comme un instrument pour l'instruction de la congrégation. Elle sert à exposer les vérités de la Bible de façon détaillée et systématique. Ça sert aussi à nous protéger contre les erreurs et les hérésies, que si vous lisez votre histoire de l'Église, vous allez voir qu'il y en a une tonne, et que s'il n'y avait pas eu confession de foi, les gens auraient eu beaucoup de difficultés à rejeter les erreurs. Et ça sert aussi à encadrer la prédication contre ce qu'on appelle la démangeaison des nouveautés. Il n'y a rien de nouveau dans l'Évangile. Il n'y a rien de nouveau dans la Bible. Et on dirait qu'il y a des gens que, quand ils lisent qu'est-ce que les autres ont écrit, il faut toujours qu'ils trouvent quelque chose de nouveau. Il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rien trouver de nouveau dans les Écritures. Mais ça veut dire la démangeaison, ça veut dire que tu n'es pas capable de te contenter des enseignements qui ont été transmis au cours des siècles et des siècles par d'autres. Il faut toujours que tu trouves la petite affaire qui est nouveau, la démangeaison. Alors, ça nous protège contre ça. Et aussi, autre utilité, c'est un standard de communion fraternelle et de discipline. Pourquoi hier on s'est réunis à Saint-Jérôme? Parce que tous les pasteurs qu'on est là, j'ai pas besoin d'y demander quand j'arrive. Je sais que Saint-Jérôme ont la confession de foi 1689. La Trinité à Montréal, je sais qu'ils ont la 1689. Actonville, je sais qu'ils ont la 1689. Rouyn-Noranda, je sais qu'ils ont la 1689. C'est ce qui fait qu'on peut être ensemble. Et j'ai pas besoin de me poser des questions. Qu'est-ce que croit Pascal? Qu'est-ce que croit Jean Lépine à Rouyn-Noranda? Qu'est-ce que croit Raymond Perron à Montréal, etc.? Je le sais qu'est-ce qu'il croit. Il croit la même chose que moi. C'est la base de notre unité, la base de notre communion. Et quand on dit aussi de discipline, c'est parce qu'à l'intérieur de cela, on a les critères pour être capable de définir ce qui est vrai et définir ce qui est faux. Alors, la Bible envisage l'Église locale comme un corps de personnes de même foi, caractérisé par la paix et l'unité. Quand on lit Éphésiens, chapitre 4, verset 3, « Étant soigneux de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » C'est notre responsabilité de garder l'unité de l'esprit. Comment on y arrive? Si on a une confession de foi qui définit qu'est-ce que c'est la Trinité, puis on s'entend tout, ça va-tu garder la paix ou ça ne la gardera pas? Tandis que si on laisse à chacun définir qu'est-ce que c'est, là, je vous dis que ça ne sera pas long qu'on va s'astiner à plein, comme on dit. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. « Or, je vous prie, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous parliez tous un même langage et qu'il n'y ait point de division entre vous, mais vous soyez bien unis dans un même sentiment et dans un même avis. » Pourquoi on peut s'entendre? Parce qu'on sait qu'on croit la même chose. Pourquoi je peux m'entendre avec les autres églises avec lesquelles on a de la communion dans l'association? C'est parce que je sais qu'ils croient la même chose que moi. Et eux, quand ils viennent ici, ils ne se posent pas de questions. Ils disent, la confession de foi 1689, c'est ce qui nous unit. Alors, ça dit dans Matthieu 12, verset 25, « Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre soi-même sera réduit en désert. » Et toute ville ou maison divisée contre soi-même ne subsistera point. C'est un outil d'unité, d'union. Alors, est-ce que ça serait possible, je vous pose la question, réfléchissez à ça, est-ce que ça serait possible que des calvinistes, des arminiens, des pélagiens, juste pour vous expliquer c'est quoi un pélagien, ça, c'est en train de dire que l'homme peut mener une vie parfaite d'obéissance à Dieu sans la régénération. En gros, là, on pourrait aller beaucoup plus en détail que ça. Des pélagiens ou des unitariens. Les unitariens, eux autres, ils nient la Trinité. Est-ce que vous croyez que ce serait possible qu'on puisse tous travailler ces groupes-là ensemble avec autant de différences dans nos perceptions, dans nos croyances? Ben voyons donc. Poser la question, c'est y répondre. On ne peut pas travailler en collaboration avec des gens sur lesquels on ne s'entend pas doctrinalement. Alors, on ne peut pas travailler ni adorer ensemble dans la paix parce qu'on a trop des façons de voir les choses. Et si chacun de ces groupes-là essayait de travailler ensemble, chacun fait la promotion de sa croyance particulière, après où ça pourra marcher?
Non.
Ça ne marchera pas. Alors, la confession de foi sert à établir la base de communion inter-Église. Pourquoi, moi, je peux aller à l'Église de la Trinité à Montréal et me sentir à l'aise comme si j'étais chez nous? C'est parce que je sais qu'ils croient la même chose que moi et qu'ils prêchent sensiblement la même chose que moi. Et on sait que dans une Église, la discipline, qu'on appelle la discipline d'Église, c'est essentiel pour maintenir la paix et l'unité dans l'Église locale. Vous, Romains 16, versets 17 et 18. « Or, je vous exhorte, mes frères, de prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise et de vous éloigner d'eux. Car ces sortes de gens ne servent point notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre vente et par de douces paroles et des flatteries, ils séduisent les cœurs des simples. » Tite, chapitre 3, versets 10 et 11. « Évite l'homme sectaire après un premier et un second avertissement, sachant qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche se condamnant lui-même. » Alors, une Église sans une confession de foi détaillée et complète est l'équivalent théologique et ecclésiastique d'un individu qui ne se protégerait pas contre les maladies infectieuses mortelles. C'est une façon de se protéger. Troisième utilité, c'est qu'elle sert de standard pour évaluer les ministres de la parole. On sait que normalement, avant qu'une personne puisse enseigner dans une église, il faut que cette personne-là ait été examinée par un groupe de pasteurs. Dans mon cas, ça a été 6 pasteurs qui m'ont examiné. Il y en a même ici qui étaient présents. Alors, quelque part, les gens, avant de permettre à quelqu'un d'enseigner publiquement, ils veulent s'assurer que ses croyances sont orthodoxes, que ses croyances sont correctes. Alors, ça dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, « Et les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, comme elle est à des hommes, à des personnes fidèles qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres. » Dans Tite, chapitre 1, verset 9, on parle des qualifications du pasteur, « Retenant ferme la parole de la vérité, comme elle lui a été enseignée, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par la saine doctrine que de convaincre les contradisants. » Donc, autrement dit, il faut que je sois capable de 2 choses. Enseigner la saine doctrine, puis de dire les contredisants, d'être capable de démontrer qu'ils sont dans l'erreur. Si tu n'es pas capable de faire ça, normalement, ça ne devrait pas être ta place étonnamment. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1, ça dit « Mes bien-aimés, ne croyez point à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Quatrième raison, quatrième bénéfice, elle contribue à donner un sens à la continuité historique. Autrement dit, si vous auriez eu une conversation aujourd'hui avec un baptiste du 1689, vous auriez sensiblement la même... Alors, ça assure une certaine continuité dans le temps et dans l'espace. Alors, ça nous assure qu'on n'est pas une anomalie historique, qu'on n'est pas les seuls qui ont manifesté notre foi de cette façon-là à travers les siècles. Notre confession de foi nous relie historiquement à l'héritage des chrétiens réformés, qui sont les presbytériens et les baptistes, des siècles passés. Elle nous assure également que nous laisserons un patrimoine spirituel fidèle aux générations qui viennent. Parce que quand on vieillit, on sait que ça va prendre quelqu'un qui va nous remplacer un jour. Mais si cette personne-là qui veut nous remplacer un jour, on va s'assurer qu'il croit la même chose que nous, sinon on ne le sera pas enseigné. C'est simple que ça. Alors, c'est pas une question d'importance mineure, l'adoption et la défense et la promotion d'une confession de foi. Ça nous donne vraiment une continuité historique qui contribue grandement à la stabilité de l'Église et au bien-être spirituel des membres. Alors, je vois une application très importante. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donné des pasteurs et des docteurs à son Église pour son édification. Ceux-ci ont consigné le fruit de leurs labeurs et de leurs études dans des confessions de foi. Ce n'est pas des choses qui se sont écrites du jour au lendemain sur un coin de table. Alors, ça dit dans Éphésiens, lui-même, donc, elle parle de Christ, lui-même a donné les uns pour apôtres, les autres pour prophètes, les autres pour des évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs, pour travailler à la perfection des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous rencontrions tous, dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, dans l'état d'un homme parfait à la mesure de la parfaite stature de Christ. Afin, oui, c'est important. Pourquoi il a donné ça, le Seigneur? Il dit lui-même pourquoi il l'a fait. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés ça et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse à séduire artificieusement. Mais afin que, suivant la vérité avec la charité, nous croissions en toutes choses en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ, duquel tout corps, bien ajusté et serré ensemble par toutes les jointures du fournissement, prend l'accroissement du corps selon la vigueur qui est dans la mesure de chaque partie pour l'édification de soi en charité. Une connaissance approfondie et une étude attentive de la confession de foi baptiste de Londres de 1689, suivie d'une mise en pratique de tous ces enseignements, bâtira des chrétiens forts, bâtira des chrétiens qui ont honoré le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions le Seigneur de nous donner le vouloir et le faire pour s'atteler sérieusement à cette tâche et de persévérer dans cette tâche. Nous deviendrons ainsi des vases d'honneur au service du Maître. Par sa grâce et pour sa gloire.